Merci beaucoup, on est ensemble jusqu'à 13h30. Bienvenue dans votre grande table des idées. Le monde change et pour saisir l'ampleur de ces évolutions, nous consacrons cette semaine une série de 4 émissions à ce qui disrupte la mémoire, le temps, le travail. Et pour commencer, épisode 1, l'armée du futur sera-t-elle une armée sans soldats? Face au progrès de la robotisation et de l'intelligence artificielle dans le domaine militaire, sur Terre comme dans les airs, quel avenir pour l'humain à l'ère de la guerre moderne? Invitée, la philosophe Marie des Neiges Ruffaut, professeure à l'université de Namur ainsi qu'à l'Institut catholique de Paris, spécialiste des questions éthiques relatives à la sécurité, à la défense et aux nouvelles technologies. Nous la recevons à l'occasion de la parution de Itinéraire d'un robot tueur aux éditions Le Pommier. Alors pourquoi ce livre? Dès l'introduction, elle campe le décor, parce que dans une guerre, plus qu'ailleurs encore, les dimensions du respect, de l'éthique, de la délégation de la décision à un programme informatique, de la place encore réservée à l'humain, ne sont pas simplement des débats de mots, mais des enjeux de vie ou de mort. Bonjour Marie des Neiges Ruffaut.
Bonjour.
La guerre, de quelle manière vous l'avez approchée? Comment en êtes-vous venue à vous intéresser à ce sujet-là?
Je dirais par hasard, ou pour utiliser un mot compliqué, c'est la sérendipité, hein, c'est les aléas de la recherche universitaire qui m'ont menée à ce sujet. Au départ, je m'intéressais simplement au système qui pouvait fonctionner seul, donc autonome, et on m'a suggéré de m'intéresser aux applications militaires de ce domaine, et c'était un champ immense que j'ai investigué du coup.
Le remplacement, en tout point, pourrait-on dire, des hommes par des robots, est-ce qu'il vous semble plausible? C'est une question que vous ouvrez très rapidement. En 1935, Capek en doutait, une prospective aussi sombre, selon laquelle des engins de métal pourraient jamais remplacer les êtres humains et s'éveiller à des sentiments tels que la vie, l'amour ou la rébellion. Une telle prospective ne serait jamais qu'une surestimation du potentiel des machines ou encore une grave offense à la vie, écrivait-il. Est-ce que nous avons atteint aujourd'hui, à vos yeux, un point de bascule, un moment crucial où la technologie pourrait lui donner tort?
Où la technologie pourrait lui donner tort, non, je pense que les mots de Capek sont toujours d'actualité. En tous les cas, tant que la vie artificielle ne s'est pas développée, hein, tant qu'on n'a pas vu le fameux moment de la singularité tel que disent les transhumanistes, jusqu'à ce moment-là, je pense que les mots de Karel Capek sont toujours modernes. Cependant, c'est une question de choix. On peut faire le choix de décider de remplacer l'humain par des robots, même si la technique ne peut pas faire aussi bien que l'humain. Et donc, tout ce qui concerne les choix relève automatiquement de l'éthique, de ce qu'on veut créer comme monde et comme société. Et dès lors, nous avons la liberté, nous ne sommes pas contraints par la technologie, fût-elle peut-être un jour vraiment autonome, vraiment capable de se déterminer elle-même. Autant de choses qui, pour l'instant, me paraissent absolument impossibles.
On pensait qu'une intelligence artificielle ne pourrait jamais composer de musique, qu'il lui manquerait cette sensibilité. On pensait qu'une intelligence artificielle ne pourrait jamais jouer ou gagner aux échecs.
Alors, je n'ai évidemment pas dit ça, puisque aujourd'hui, les faits démontrent le contraire. Non. Et c'est pour ça que je me garde bien d'affirmer quelque chose de définitif. Tant, effectivement, que la vie artificielle n'est pas arrivée, il n'y a pas de matière à s'inquiéter, je dirais, des émotions des robots, puisqu'ils n'en ont pas. Ils n'auront que des imitations, ils ne feront que nous imiter, que nous singer d'une façon robotique. Mais pour autant, effectivement, on peut demander à une machine, à un algorithme, à une intelligence artificielle, si vous voulez, de programmer quelque chose comme de la musique. Et aujourd'hui, vous avez des programmes informatiques qui composent à la façon des Beatles, par exemple, ou d'une certaine façon harmonieuse. Et c'est intéressant parce que ces intelligences artificielles ne composent pas dans le vide, elles composent de la façon dont on leur a demandé de composer, de la façon dont on leur a ordonné de faire quelque chose. Donc ce n'est pas de la vraie créativité, il n'y a pas d'innovation de ce point de vue-là, mais pour autant, la créativité n'est pas dans la machine. Elle est chez l'informaticien, elle est de la part de l'humain qui est aux commandes, qui reste aux commandes de ce que la machine va faire et elle est à destination de l'humain. Ça ne sert à rien, la technologie pour la technologie, ça ne sert à rien, il y a toujours un humain avant et il y aura toujours un humain après, sinon c'est absurde.
Pour traiter de cette question de ce que la technologie peut faire à la guerre, vous avez choisi un traitement philosophique, la forme du conte où vous faites dialoguer un homme et un robot avec des penseurs, avec des ingénieurs, des juristes. Ça va de Leibniz à Bentham, en passant par Clausewitz, Grégoire Chamaillou, Ada Lovelace, Isaac Asimov ou encore Thomas M. Powers. Pour traiter de cette question donc, vous avez choisi de faire réfléchir vos lecteurs, faire réfléchir aussi l'homme et le robot, l'humain et la machine qui se confrontent à ces penseurs. Alors imaginez maintenant ce robot et cet humain débarquant dans une agora de philosophes, puis dans le tribunal des avocats et enfin sur le champ d'honneur des militaires et l'homme de lancer à la cantonade « Ô sage, dites-nous qui du robot ou de moi-même est le meilleur, celui que vous désignerez aura désormais le privilège de combattre au nom de la démocratie. » Trois arènes, trois agora dans lesquelles ils se retrouvent. Est-ce à dire que pour vous, les réponses éthiques, légales et pratiques qu'on va pouvoir apporter à ces questions sont différentes ou est-ce qu'elles se rejoignent le plus souvent ?
En philosophie, ce qui est important avant toute chose, c'est de définir les mots. Et la question du remplacement de l'humain par des robots partait pour moi d'un présupposé. Si on remplace l'un par l'autre, c'est évidemment pour qu'il y ait un progrès, pour quelque chose de mieux. Par conséquent, l'un des deux, en théorie, devrait être meilleur que l'autre si on voulait le remplacer. Mais évidemment, le meilleur, pourquoi faire ? Ou plus exactement, quel est l'objectif ? Quel est le critère d'efficacité pour considérer que c'est le meilleur ? Et on découvre que suivant que vous envisagez un angle plutôt éthique, un angle plutôt judiciaire ou un angle d'efficacité stratégique, on pourrait être tenté d'avoir des réponses différentes.
Et le mieux, il paraît a priori évident. Enfin, en tout cas, si on essaye d'y répondre d'abord par le bon sens, écoutez la bande-annonce du film Good Kill qui est sorti en 2015.
Objectif Kaelian visuel.
À toute heure du jour et de la nuit, des drones survolent le putain de troupeau mais contre qui on est en guerre.
La cible est identifiée, vous avez le feu vert.
3, 2, 1.
Dans le mille.
La guerre est devenue un jeu vidéo en vue subjective.
Salut papa.
Vous êtes là parce que vous aimez jouer aux jeux vidéo.
Allumez-les. On va fumer les fumiers.
Oui. Regardez, vous. 200 sorties et 6 missions avant d'arriver là.
C'est si dur que ça. Tu continues quand même à protéger les gens, non ?
Quand vous voulez.
Missile lancé.
Putain, c'est quoi ça ?
On annule ?
Négatif.
Des drones aux robots tueurs, les cartes sont en train d'être profondément rebattues grâce à la technologie. Ce sont les corps exposés, ceux des militaires, ceux des soldats, qui peuvent désormais être protégés. Est-ce que ça, ce n'est pas le mieux, l'avancée principale ?
Ça le serait si ce n'était pas au détriment de la protection accordée aux civils. Et le problème, il est là. Que la protection que logiquement nous devons accorder à des civils en temps de guerre, qui sont protégés par différentes conventions internationales, comme vous le savez probablement, ces protections, une fois qu'on a retiré l'humain, eh bien, elles disparaissent. Parce que l'humain, j'entends le militaire des nations occidentales qui serait déployé sur un terrain d'action, eh bien, ces protections ne peuvent plus être concrètes. Qui va s'interposer en cas de massacre ? Ce n'est pas parce que vous allez bombarder un village qui est occupé à se faire massacrer que vous allez sauver des civils. C'est triste à dire, mais finalement, quand vous retirez l'humain du terrain, vous perdez une certaine souplesse d'action parce que l'un des grands éléments qui distingue l'humain du robot, c'est cette plasticité, cette résistance à l'inattendu. Un humain, c'est l'une des caractéristiques de notre espèce, peut s'adapter à un nombre considérable d'imprévus, de situations. On peut vivre au pôle Nord, comme on peut vivre sous les tropiques. Tout ça pour dire simplement que nous sommes capables de nous adapter à des choses qui sont très différentes. Un robot, si vous voulez le mettre au tropique ou au pôle Nord, vous devriez le construire un petit peu différemment. Certains vont dire oui, mais si jamais on apprend au robot justement et qu'il continue d'apprendre, etc., on pourrait peut-être le former justement à réagir à l'inattendu. Et alors là, ça pose un autre problème, c'est que si vous le formez à réagir à l'inattendu, ça veut dire que le robot lui-même aura des réactions que vous n'attendez pas. Et ça, ça pose des problèmes de sécurité d'avoir un robot dont vous ne pouvez pas prédire le comportement.
C'était quand même le sens du plaidoyer du robot. Dans vos pages, Marie-Déneige Ruffo, devant le tribunal des avocats, faut-il encore mourir à la guerre, se demande-t-il. Le robot s'adresse à l'Assemblée. Chers officiers, grâce à moi, vous ne risquez plus rien. Mes semblables et moi-même sommes prêts à prendre place en première ligne, à assumer tous les risques. Désormais, plus aucun d'entre vous ne devra donner sa vie pour la patrie. Vos familles ne vivront plus dans la crainte. Nous sauverons la vie de milliers de soldats. Désormais, la guerre ne tuera plus personne. Pour lui répondre, vous donnez la parole au chercheur Grégoire Chamaillou, l'auteur d'une théorie du drone, qui met tout de suite en doute ce dernier postulat. L'idée d'une guerre sans mort, ça n'existe pas.
Bien sûr que non, puisque dans l'affirmation du robot, qui est une fausse générosité en réalité, on ne parle que de notre côté, sous-entendu les combattants des nations occidentales riches, et bien sûr on ne parlera pas du tout des civils du pays, on ne parlera pas des combattants ennemis, car une guerre sans mort, ça n'existe pas.
Des morts du côté des populations civiles innocentes qui, elles, ne sont pas des combattants de formation professionnelle comme le sont les militaires. Et Grégoire Chamaillou, sous votre plume d'ajouter, employer des moyens technologiques avancés sur le champ de bataille, ce n'est pas nouveau. L'utilisation des robots obéit à une éthique concurrente. Elle est où, cette éthique concurrente ?
C'est une idée de l'éthique qui protégerait exclusivement nos combattants, qui en fin de compte utiliserait le langage pour cacher une vérité dérangeante. On parle de dommages collatéraux plutôt que de dire on a tué des personnes innocentes. Oui, mais enfin bon, on n'a pas fait exprès, donc c'est pas grave. C'est inaudible.
Certaines vies valent-elles plus que d'autres ?
Exactement, il faudrait calculer, bon alors à quel point est-ce que je peux considérer que tirer au milieu d'un village ou à proximité d'un hôpital, toutes choses qui sont logiquement interdites pour ne pas risquer de mettre en danger la vie des civils. Et donc tout ça, on essaie de remplacer ces protections qui étaient accordées aux civils par le droit international humanitaire, par des réflexions d'ingénieurs. Oui, mais finalement, ça vaudrait le coup, vous calculez autant de civils, ça vaut bien la mort d'un terroriste important. Vous arrivez à des calculs sordides qui ne protègent en rien les civils et rendent la guerre encore plus inhumaine.
Aucune technologie n'est mauvaise en elle-même, tout dépend de l'utilisation qui en est faite. Vous repartez de cette maxime presque bien connue et vous vous focalisez sur ce qui devrait être notre principale source d'inquiétude ou en tout cas de questionnement aujourd'hui, les robots tueurs. Alors de quoi parle-t-on exactement quand on parle de robots tueurs ?
Alors effectivement, le grand public peut utiliser ce terme pour désigner deux choses différentes, à savoir notamment des drones à capacité létale, c'est-à-dire qui peuvent tuer, qui seraient encore téléopérés, c'est le cas aujourd'hui, donc avec un humain derrière pour programmer le tir. Et de l'autre côté, ce qu'on appelle techniquement les SALA, c'est un acronyme pour les systèmes d'armes létales autonomes. Et donc on peut dire, voilà, ce sont des robots tueurs, parce que dans les deux cas, c'est vrai, sont dotés d'armes qui peuvent potentiellement tuer, non, ce sont pas simplement des drones d'observation, par exemple, hein, qui posent un peu moins de difficultés, effectivement. Ensuite, le problème particulier des SALA, c'est qu'à cette distance et à ce tir létal, se rajoute la dimension de la prétendue autonomie. Qu'est-ce que c'est que cette autonomie ? C'est une autonomie négative, c'est-à-dire c'est ne pas avoir besoin de l'intervention de quelqu'un pour déclencher quelque chose. En l'occurrence, le tir. Et donc ce serait encore pire avec le SALA, si vous voulez, parce que vous auriez à la fois la distance, donc tuer à distance, et c'est la machine qui décide tout. Et donc ça suppose que vous ayez programmé à l'avance qui peut être désigné comme une cible ou pas, qui va être désigné comme un terroriste ou pas, et suivant quels critères. Alors là, vous allez avoir la tentation d'automatiser encore plus la chaîne, hein. Vous allez définir avec des algorithmes suivant quel pattern vous pouvez désigner comme étant un terroriste ou pas. Et vous avez des cas où aujourd'hui, vous avez des logiciels qui désignent un journaliste d'Al Jazeera comme étant un terroriste puisqu'il a des contacts avec des personnes qui sont des terroristes. Et le pire peut-être, c'est effectivement le fait que la présentation de ce cas n'a pas été désignée par des humains comme vous et moi comme étant un faux positif, c'est-à-dire une erreur du... Ça a été présenté comme vous voyez, c'est notre système fonctionne bien. Ça c'est inquiétant parce qu'on ne se pose plus la question de la validité du résultat de la machine. On dit, ah, voyez, il a trouvé quelque chose suivant ce pattern-là, donc c'est logique. Peut-être que non. Peut-être qu'il y a des faux positifs et il y en a de... Il y a des cas où effectivement les algorithmes peuvent conduire à des catastrophes. Donc il faut avoir une certaine prudence quand on utilise exclusivement des machines. Il faudrait peut-être garder une forme de résistance par rapport à ce que nous conseillent les machines.
À l'origine, parce que vous parlez de l'importance des mots aussi, deux chercheurs du CNRS ont souligné aussi l'ambiguïté de ce terme de robot tueur dans nos perceptions aujourd'hui, avec un caractère très anxiogène. On voit tout de suite un gros Robocop armé jusqu'aux dents qui pourrait se retourner contre l'homme avec l'intention de tuer, qui serait presque conscient ou pas loin de l'être et qui pourrait se retourner contre son créateur. Vous évoquez aussi l'ambiguïté du terme SALA, de cet acronyme, les systèmes d'armes létales autonomes, dont il faut aussi évaluer l'autonomie et qu'est-ce qu'on entend par là. Mais du coup, sans se demander tout de suite quel serait le bon mot à employer, est-ce que ces robots tueurs, et vous reprenez le terme pour titrer votre essai, sont programmés, inventés, avec cette finalité, celle de tuer ?
Il est évident que quand vous dotez un système d'une arme létale, c'est pas pour qu'il tire des fleurs. Hein. Il y a une recherche d'élimination, ça c'est évident.
Des humains remplacés par des machines sur le champ de bataille, cette promesse portée par le développement fulgurant des technologies porte aussi en elle des craintes. On les a un peu évoquées déjà. Pourquoi ces robots ne pourraient pas se voir incuber l'éthique de leur créateur ?
Alors ça, c'est effectivement très tentant et intellectuellement séduisant au départ, mais il faut se méfier de tout ce qui est apparemment séduisant, en tout cas au départ. Vous dites oui, mais si jamais je crée quelque chose de froid, de parfaitement rationnel, calculant, je vais éliminer ce qui serait l'élément le plus gênant chez l'humain, à savoir les sentiments, la passion, l'instinctivité, l'animalité. Et donc, je vais prendre ce qu'il y aurait de meilleur chez l'humain, c'est la pure rationalité. Et donc, je programme tout ça dans un robot. Et par conséquent, puisque penser, ce ne serait que calculer, le robot pensera mieux et donc agira mieux et donc sera plus moral. Et le monde sera sauvé grâce à l'ultime formule mathématique de la moralité.
Et ça serait même encore mieux, parce qu'une éthique solidement programmée, là où les hommes sont faillibles, naturellement, nous préserverait d'un certain nombre de dérives, notamment de la faiblesse humaine.
Ça paraît totalement idéal. Et parce que c'est idéal, c'est irréaliste. C'est irréaliste parce que justement le monde échappe toujours à tout ce qu'on peut planifier. Nous avons toujours des occasions, parce que nous sommes humains, des occasions de faire usage de notre capacité de créativité et donc d'être capable d'un certain héroïsme moral. Et ça, c'est possible en faisant appel justement à nos sentiments, à notre créativité, à notre passion et pas juste à notre raison. Il y a des choses qui défient la raison et qui sont peut-être les seules qui sont vraiment pleinement à la hauteur de la morale. Alors c'est très exigeant et c'est pour ça que je parle d'héroïsme moral. Et ça, c'est inatteignable pour la machine. Quand vous essayez de programmer la morale, vous allez avoir une morale qui est... je dirais presque au ras des pâquerettes, qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on voudrait vraiment attendre en droit d'attendre de l'humanité. Hein. Et on arrivera à quelque chose qui est finalement, de par les contraintes de l'informatique, qui serait globalement moyennement aussi moral que l'humain en moyenne. Est-ce qu'on peut vraiment se satisfaire d'une moyenne en termes de morale? Est-ce que je veux vraiment remplacer un humain qui pourrait être héroïque par une machine qui fera globalement aussi bien qu'un humain moyen? Eh bien ça, ce n'est pas un progrès. En tout cas, je ne souhaiterais pas être dépouillé de mon devoir moral. D'ailleurs, c'est impossible qu'une machine me dépouille de mon devoir, il s'imposera toujours à moi. Je ne veux pas être dépouillé de ce devoir qui fait également ce que je suis. Ce qui fait que je suis un humain, c'est que j'ai un cœur. Le robot n'en a pas. Et le fait que j'ai un cœur, le fait que j'ai une moralité, ça c'est quelque chose qui est ininformatisable, et heureusement. Et si c'est ininformatisable, dans une société où justement on prétend me remplacer par des robots, je dois d'autant plus en faire usage. Donc c'est intéressant, le robot me renvoie une image de ce que je devrais m'obliger à être. Alors c'est exigeant, mais c'est intéressant de savoir que être humain, c'est aussi une exigence.
Ça, on l'apprend dans les écoles militaires.
Un surcroît d'humanité? En tous les cas, je sais qu'en France, vous avez de belles formations qui existent et des centres de recherche en matière d'éthique qui travaillent à diffuser ces idées que, ben justement, le militaire n'est pas qu'une machine à tuer. Parce que si le militaire n'était qu'une machine à tuer, ben vous pouvez le robotiser. Mais en fait, il y a plus que ça. Et heureusement, sinon, ben, quelle est la différence entre un militaire d'une nation démocratique et, comment dirais-je, quelqu'un qui est payé pour tuer ? Un assassin, une milice privée.
À propos d'éthique, je vous propose d'écouter les mots du général De Villiers. C'était récemment à la télévision.
Il est clair que l'homme pourrait, si on y prend garde, disparaître. Sauf que, si on prend l'exemple des drones, qui est très intéressant parce que ça a été une révolution technologique majeure pendant mon temps de chef d'état-major. Eh bien, les pilotes de drones qui peuvent, devant un écran, être à des milliers de kilomètres de l'endroit où le drone vole et où maintenant, avec les drones armés, nous n'en avons pas encore, mais nous en aurons, peuvent frapper. Quand même gravissime. Eh bien, en fait, la responsabilité de ce pilote de drone est presque supérieure à un pilote d'avion de chasse qui, lui, voit sa cible, voit ce qu'il survole. Et on s'est aperçu qu'on a des blessures post-traumatiques très important chez les pilotes de drones, en particulier aux États-Unis. Ça fait partie des éléments essentiels du commandement, les blessures post-traumatiques. Parce que lui, il rentre chez lui le soir. Quand vous êtes en opération, vous accédez à proximité des terroristes, vous les voyez. Et ça se termine parfois les yeux dans les yeux, je le dis dans mon livre, parce que j'ai eu des témoignages, notamment de blessés à Percy, qui m'ont dit j'ai croisé le regard du terroriste à un mètre au coin d'une roche. Et en réalité, il faut continuer à garder les qualités foncières du combattant. Le courage, la cohésion, la fraternité, le dépassement de soi. Mais c'est une autre forme de dépassement et de courage.
Le général De Villiers, auteur de « Qu'est-ce qu'un chef ?» récemment dans l'émission « On n'est pas couché », sur cette question de la responsabilité de la machine et celle de l'homme. Qu'est-ce qu'on entend du coup par éthique en termes de responsabilité de ses actions ?
Si Coralie, est-ce que je vous expliquais tout à l'heure que je ne peux pas me départir de mon devoir ? Devoir, responsabilité, hein, tout ça va de pair. C'est cette idée justement que même si je demandais à la machine de faire quelque chose à ma place, dans le domaine de la morale, c'est impossible. Je ne peux pas penser que parce que la machine va agir à ma place, que je ne serai plus responsable. C'est tout simplement faux. Si vous utilisez un outil pour faire quelque chose pour vous-même, vous restez responsable de ce que vous demandez à l'outil ou ce que vous faites faire à l'outil, comme je le disais également. Vous avez toujours un humain avant, vous avez toujours un humain après. Et c'est sur cet humain que pèsera la responsabilité. Plus encore, parce qu'on robotise quelque chose, la responsabilité apparaît comme diluée, mais en fait elle se multiplie. Vous aurez à la fois la responsabilité de l'entreprise, vous aurez la responsabilité de celui qui l'a programmée, vous aurez la responsabilité de celui qui l'a lancée, et logiquement vous devriez avoir la responsabilité également des politiques qui commandent l'achat de tel ou tel type d'armes. Cet élément est pertinent. Cet élément est pertinent. Pour le comprendre, on a cette impression que parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, que la chaîne est longue, que la responsabilité serait diluée, aurait disparu. Eh bien, c'est une erreur d'appréciation parce que si je prends un exemple parallèle beaucoup plus simple à comprendre, si vous commettez un vol, si vous le commettez en réunion et vous y mettez à plusieurs, vous n'êtes pas moins responsable que si vous l'aviez fait tout seul.
Ce qui répond aussi à la question que vous soulevez dans cet essai itinéraire d'un robot tueur de la machine. La machine peut-elle être un agent moral dans le sens où elle agit ? Est-ce que ça suffit à faire d'elle un agent moral ?
Alors, vous ne pourrez jamais, en utilisant correctement les mots et le sens qu'ils portent, dire que la machine est un agent moral. Certains ont proposé, du coup, de créer une catégorie à part, tout comme on a proposé de créer une catégorie juridique à part pour les robots. Vous avez des propositions européennes maintenant de créer une personnalité juridique pour les robots, la personnalité informatique. Eh bien, le robot, certains proposent de le créer un agent moral artificiel. Et bien même ça ne marche pas. Vous pouvez essayer de traduire informatiquement certains préceptes de la morale, mais de là à dire que vous avez créé un agent moral identique à l'humain, il y a vraiment une marge. Il y a vraiment une marge. Vous pouvez donner une traduction informatique de quelque chose, mais comme vous savez, traduire, c'est trahir, parce que vous devez toujours simplifier, hein, vous coupez dans les principes généraux pour essayer de donner une traduction. Donc c'est une simplification. Donc c'est jamais suffisant au niveau moral, donc on ne peut pas considérer que c'est équivalent.
Donc pas d'agent moral, pas de droit que l'on pourrait accorder au robot, pas de statut, au-delà du statut juridique, des droits comme on en accorde à la personne humaine.
Ça dépend justement de ce que vous considérez comme fondateur pour obtenir des droits. Alors, il y a plusieurs écoles, mais je suis partisane de ce point de vue, du point de vue qui est le suivant. Ce qui fonde des droits, c'est effectivement à partir du moment où vous pourriez souffrir de quelque chose. À partir du moment où, si on vous prive de quelque chose, vous en souffrez, cela signifie que vous auriez un droit à ne pas être privé de ladite chose. Mmh. Qu'est-ce qui pourrait provoquer la souffrance à un robot? Qu'est-ce qui pourrait nuire à un robot? Rien. Rien ne pourrait provoquer de désagrément à un robot tant qu'il n'est pas en vie, tant que la vie artificielle n'existe pas. Par conséquent, le robot n'a pas de droit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de besoin. Il n'a pas de besoin qui doit être. Il n'a pas besoin de protection. Par conséquent, il n'a pas besoin de bénéficier de droits. En même temps, on peut se poser la question s'il n'a pas des devoirs envers nous, ou en tous les cas, si les personnes qui le programment ne doivent pas faire en sorte qu'il y ait à l'intérieur de son programme des sécurités pour nous. Ça, oui. Mais encore une fois, c'est toujours l'humain qui est derrière qui est concerné.
Le robot peut-il exister en droit, extrait d'un des dialogues de votre essai, Marie-Déneige Ruffaut, Colline Allen et Wendell Wallach prirent la parole ensemble. Robot, tu es accusé par les philosophes de ne pas être un agent moral identique à l'humain. Aussi, nous proposons que ce tribunal fasse de toi un AMA, un agent moral artificiel, dès que la programmation idéale aura été sélectionnée. Si les robots aujourd'hui ne sont pas encore, en tout cas, l'égal de l'homme, comment nous vantons leur qualité? Je vous propose d'écouter les termes d'une publicité nous présentant ce que pourraient être les avantages d'adopter le soldat du futur.
What if we told you? The future is now.
Et si on vous disait que le futur, c'est maintenant? Des robots remplacent des soldats de terrain. Les victimes inutiles sont du passé. Minimiser les dommages collatéraux et les victimes civiles. Duke Robotics présente TCAD, le soldat du futur. Avec TCAD, le futur champ de bataille est arrivé. Un robot létal, capable d'identifier et de neutraliser de manière chirurgicale les éléments hostiles sur le terrain. Il peut maintenant être déployé sur des terrains que les soldats ne peuvent atteindre, ou sur lesquels ils ne devraient pas être. TCAD est capable de s'adapter au bon endroit et au bon moment.
Qu'est-ce que ça répond, en quoi ça nourrit aussi les imaginaires aujourd'hui sur cette manière d'imaginer ce que serait l'armée du futur, qui est peut-être presque déjà maintenant, d'après les mots de cette publicité pour TCAD de l'entreprise Duke Robotics Inc. Qu'est-ce que ça nous donne comme image de ce que serait la guerre de demain?
C'est intéressant quand vous parlez d'image parce qu'effectivement, le meilleur fournisseur d'images dans la culture populaire, c'est évidemment Hollywood. Et donc, quand on parle des robots tueurs, tout le monde imagine Terminator, pour ceux qui l'ont vu, parce que je découvre que certaines jeunes générations l'ont pas encore vu. C'est effrayant.
C'est Hollywood et les jeux vidéo aujourd'hui aussi.
Tout à fait. Il y a cette idée Call of Duty, n'est-ce pas? C'est paradoxal d'ailleurs. Call of Duty, finalement, c'est un jeu. Mais quand on pense robotiser, quand on pense utiliser tout ça, il y a cet imaginaire que ça serait mieux. Il y a l'idée d'une efficacité immédiate. On n'aurait qu'à appuyer sur un bouton. Et au plus on élimine des personnages comme dans le jeu, au plus on gagnerait des points et on serait le meilleur. L'efficacité immédiate qu'on présente avec les robots, etc. Donc qui est l'autre facette, on dit bon, on va protéger les soldats et en même temps ça va être mieux, on va être plus efficace, on va tirer mieux là où on peut pas aller, là où on peut pas atteindre, comme disait la publicité. En fait, cette efficacité-là, c'est une efficacité à court terme, qui est peut-être négative sur le long terme. Il y a cette idée que je vais donner une réponse immédiate et rapide. Et donc le problème est clos. Sauf que la guerre, c'est pas juste tuer des gens. La guerre, disait Clausewitz, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Par conséquent, vous avez un message politique à faire passer et le but de la guerre, ce n'est pas en elle-même de tuer des gens et de durer par conséquent pour pouvoir en tuer un maximum. Le but, c'est de parvenir à ses fins. Et ses fins, c'est quoi? C'est rétablir la paix ou un état au moins suffisamment stable que pour que des échanges économiques puissent continuer sereinement. Et ça, comment est-ce qu'on fait avec des robots? Comment est-ce qu'on fait pour discuter avec autrui quand vous ne l'avez pas vu justement dans les yeux? Alors, je ne minimise pas les témoignages dont parlait le général dans l'extrait que vous avez choisi. Il y a effectivement un aspect terrifiant de voir les yeux dans les yeux. Mais vous humanisez aussi la personne qui est en face de vous. C'est affreux à dire, on ne tue pas des animaux. Nous sommes en train de lutter également contre des idées, contre des personnes qui ont des idées, c'est une question de pouvoir, mais ce n'est pas une question d'abattre des personnes de la façon la plus efficace possible. Ça, ce n'est pas digne d'une nation démocratique.
Est-ce que ça change aussi notre perception de ce qu'est la guerre juste, voire aussi l'art de la guerre?
Tout à fait. Évidemment, quand on parle d'éthique, la première chose qui vient en tête, c'est « mais il n'y a pas d'éthique à la guerre ». Eh bien, ce n'est pas parce qu'on voit, et c'est fréquent, des cas où il y a ce qu'on appelle pudiquement des bavures, des dommages collatéraux, quand il y a des erreurs, que pour autant c'est quelque chose qui est acceptable, que c'est quelque chose qui est justifiable, pas du tout. L'existence des tribunaux pour les crimes de guerre, par exemple, le démontre, et fort heureusement. Donc Freud disait que la guerre, c'est la période où on abolit le blâme. Je voudrais très modestement compléter cette citation, bien sûr, très modestement. Ce n'est pas tant le moment où on abolit le blâme que plutôt qu'il est reporté. Il y a un temps pour la guerre et il y a un temps pour la justice. Mais il est important que la justice existe, que les vrais responsables soient reconnus, que les victimes, notamment, soient reconnues et pas qu'on leur dise simplement « Oh, écoutez, on est désolé, c'était une erreur de programmation, passez votre chemin ». Ça, c'est inaudible, c'est inhumain, justement.
Qui a intérêt aujourd'hui, pour vous, Marie-Déneige Ruffaut, à développer ces robots tueurs? Parce qu'il y a une cour, une agora, un cercle devant lequel vous n'avez pas envoyé votre humain et votre robot. C'est le cercle économique. Qui va gagner à la fin? C'est-à-dire que si les avocats freinent en s'appuyant sur la Convention de Genève, si les militaires freinent en s'appuyant sur les indispensables valeurs de la guerre aussi que les robots ne pourraient pas pratiquer, si les philosophes viennent amener de la raison sur cette question et remettre l'éthique en avant, quid des agents économiques?
Vous me dites que je n'avais pas mobilisé le domaine économique, mais ce n'est pas le plus important finalement que je n'ai pas mobilisé. Celui que j'aurais pu mobiliser, qui eût été plus intéressant de faire, c'est évidemment le domaine politique. Parce que la réponse, elle est là, et je reconnais que je botte en touche à la fin du chapitre sur les militaires, parce que ceux qui ont vraiment le pouvoir de décider d'adopter ou pas un système d'armes, c'est évidemment le politique. Bien sûr, le politique peut être motivé par des considérations économiques.
Ceux qui ont le pouvoir de le créer, en tout cas, c'est peut-être pas eux qui vont l'adopter, mais c'est aussi les informaticiens et le pouvoir et la sphère économique qui vont pouvoir développer ce type de programme.
Et puis surtout, dans le domaine économique, il faut bien, enfin politico-économique, je vais joindre les deux, il faut bien se rendre compte qu'il y a une dimension vraiment politique aux ventes d'armes. Ça, on voit aujourd'hui le Canada qui s'interroge comment est-ce qu'il pourrait ne pas honorer certains contrats qu'il a passés. On se rend compte qu'il y a vraiment une dimension, mais je l'ai déjà dit, mais je le répète, une dimension politique, pas seulement économique, au fait de développer une arme et de potentiellement l'exporter. C'est problématique. Et si vous créez quelque chose comme des robots autonomes, est-ce que vous avez vraiment envie de donner cette technologie à d'autres? Sachant que, bien sûr, si vous ne voulez pas les leur vendre, les terroristes pourraient très bien les pirater. Donc, est-ce vraiment une bonne idée de les développer, tout simplement?
Donc, pour conclure, Marie-Déneige Ruffaut, l'armée du futur, une armée sans soldats, c'est pas pour 2019?
Je ne le souhaite pas, je l'espère pas.
Merci beaucoup à vous. Et un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table. Merci à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des idées. Merci à Auriane Delacroix avec Henri Leblanc pour la Grande Table culture, avec l'aide précieuse de Jeanne Copé et de Jordan Joseph. À la réalisation aujourd'hui, c'était Milena Elig avec Clément Daté. Très bonne année à tous.